Salut Raphaël.
Salut Patrick.
Donc, journée historique aux États-Unis, le policier Derek Chauvin, qui a été reconnu coupable des trois chefs d'accusation dans la mort de George Floyd. Écoute, la décision est sortie très, très rapidement, à peine 10 heures de délibération sur 2 jours.
Et c'était là qu'on savait d'emblée, ou tout au moins qu'on pouvait fortement se douter que ça finira pas bien pour Derek Chauvin. Parce que, écoute, ça s'est terminé hier en fin de journée, ce procès-là. Et déjà à la fin de l'après-midi aujourd'hui, on savait qu'on allait avoir un verdict. Donc, comme tu le mentionnes, coupable de tout, essentiellement, meurtre au deuxième, meurtre au troisième degré, ainsi qu'homicide involontaire. On s'entend qu'il y a des chefs d'accusation là-dedans qui peuvent sembler un petit peu contradictoires. Un homicide involontaire, évidemment, c'est pas la même chose qu'un meurtre. Donc, ce qui va se produire concrètement, lorsque le juge va prononcer la sentence, ce qui, je le rappelle, là, pour ceux qui étaient peut-être pas à l'écoute un petit peu plus tôt, ce qui n'aura pas lieu aujourd'hui, on ne connaîtra pas la sentence aujourd'hui, mais lorsqu'on la prononcera, ce sera une sentence qui est liée uniquement au chef d'accusation le plus grave. Donc, en l'occurrence, meurtre au deuxième degré. Ce que ça veut dire concrètement, sans doute, c'est une dizaine, peut-être une vingtaine d'années en prison. Peut-être qu'on ira au-delà de ça, mais dans tous les cas, c'est tout au moins concevable que Derek Chauvin finisse carrément ses jours en prison.
Mais les chances qu'il soit acquitté, c'est quoi, tu penses?
Les chances qu'il soit acquitté...
Qu'il soit acquitté en appel, pardon.
Il faudra voir, mais tu fais très bien de poser la question, parce que c'est pas la fin de l'histoire aujourd'hui. Non seulement on n'a pas la sentence, mais on n'a pas la décision qui va être prise par rapport à son équipe légale, son équipe de défense, à savoir est-ce qu'on amène ça en appel. Je dirais qu'il y a quand même assez fort à parier que la réponse c'est oui. Mmh. Et si la réponse est oui, qu'est-ce que ça donne exactement? Tu sais, hier, lors de la chronique, je te mentionnais l'espèce de controverse qu'il y avait eu autour des propos d'une élue du Congrès qui avait appelé à ce qu'il y ait carrément de la confrontation là, dans les rues s'il y avait un verdict de non-culpabilité en faveur de Chauvin, et que ça pourrait peut-être teinter un procès en appel, parce que il faut toujours garder en tête le contexte de cette affaire-là. Oui, évidemment, c'était une cause épouvantable, mais c'était plus que la cause de ce policier-là et que de cet Afro-Américain-là qui a été abattu. C'était aussi un pays carrément qui était en crise sociale depuis un an et tout au moins là, qui était sous extrêmement haute tension d'un océan à l'autre. Donc, d'avoir un jury qui pouvait avoir ça en tête au moment des délibérations et que ça a été renforcé dans les dernières heures par la possibilité de débordement, il y a cette dynamique-là aussi à considérer dans la perspective d'un possible appel.
Raphaël, les États-Unis, c'est ton sujet d'étude. Tu as habité aux États-Unis. Là, je lève les yeux et il y a plusieurs personnes autour du palais de justice de Minneapolis qui s'enlacent, qui pleurent, dont évidemment beaucoup d'Afro-Américains, d'Afro-Américaines. Explique-nous pourquoi c'était à ce point important pour les Afro-Américains que l'injustice de la mort de M. Floyd soit reconnue.
Mais écoute, où commencer? Peut-être avec l'origine même du pays. C'est un pays qui a été fondé sur, en partie, des principes humanistes absolument extraordinaires, dans certains cas sans précédent, et en même temps aussi qui a été fondé à certains autres égards dans un racisme, pour reprendre ton expression, chérie, un racisme systémique. Écoute, c'est un pays qui est né avec l'esclavagisme pour les premières décennies de son existence. Et même lorsqu'on s'est débarrassé de l'esclavagisme officiellement, on s'est retrouvé avec d'autres formes de discrimination absolument immondes, à commencer par la ségrégation, qui va avoir duré à peu près un siècle officiellement après la fin de l'esclavage. Et même suite à la fin de la ségrégation officielle, on a toutes les répercussions maintenant de ces siècles d'injustices-là qui se répertorient par, écoute, une panoplie d'injustices et d'inégalités sociales. Et dans ce contexte-là, les questions des relations avec les corps policiers sont extrêmement difficiles depuis longtemps parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde au sein des communautés afro-américaines qui jugent depuis longtemps ne pas être traités de façon égale. Et que lorsqu'il y a de la brutalité policière, lorsqu'il y a des policiers qui outrepassent leur pouvoir, la justice n'est pas faite, n'est pas entendue. Aujourd'hui, force est de constater là, que c'est le cas.
Et Raphaël, il y a des gens qui m'écrivent pendant l'émission, et hier ou avant-hier, là, quelqu'un, pas avant-hier, pardon, on était lundi, quelqu'un m'a écrit pour me dire, ben écoutez, il y avait juste les gens ont juste à pas commettre de crime, ils n'auront pas de problème avec la police. Et explique pourquoi c'est beaucoup plus compliqué que ça.
Ben c'est tellement directement lié à ce dont je viens de parler. C'est-à-dire que, écoute, tu as des générations d'inégalités qui ont été créées par ce système-là qu'on avait à la base. Donc, c'est facile effectivement de dire, si seulement il y avait moins de crimes dans ces communautés-là, il y aurait moins de problèmes avec les policiers. Mais la réalité, c'est que dans bien des cas, ce sont des gens, ce sont des familles qui naissent là-dedans. Ça, c'est, je pense, une chose à mentionner de façon très, très large. Mais écoute, si tu veux te limiter très spécifiquement au cas de George Floyd, parlons-en, remettons les pendules à l'heure. Est-ce que ce type-là avait commis quelque chose qui était peut-être illégal? Parce qu'évidemment, il n'y aura jamais eu de procès pour ça, là. Mm-hmm. C'est-à-dire passer un faux billet? Oui, c'est possible. Est-ce qu'il était peut-être lourdement, en fait, ça, c'est pas un peut-être, on le sait, là. Est-ce qu'il était lourdement intoxiqué? Est-ce qu'il y avait un problème de drogue? Mm-hmm. Oui. Est-ce que ça justifiait pour autant non seulement ce que Derek Chauvin a fait, mais la façon dont on l'a arrêté en premier lieu? Parce que ça, c'est bon, je pense qu'on prenne une minute pour en parler ensemble ce soir. Un des moments les plus brillants de la part des procureurs dans cette affaire-là, dans le procès qui s'est étiré sur un peu plus de 3 semaines, ça a eu lieu hier, dans les argumentaires finaux. Au moment où le procureur principal est allé ressortir une photo, OK, du moment de l'arrestation. Ça, je le rappelle, c'était avant même que Derek Chauvin arrive sur scène en renfort. Et on voit le pistolet, l'arme à feu d'un des policiers à quelques pouces, il la braque déjà, là, à quelques pouces du visage de George Floyd qui est terrifié. Et ça ne veut pas dire que c'était une innocente brebis. Ça veut simplement, disons, suggérer que peut-être qu'il y avait des injustices ou il y avait des façons drôlement questionnable d'aborder plusieurs suspects comme George Floyd, avant même qu'on ait des épisodes aussi horribles que le fameux genou sur le cou. Fait que c'est ça. Je pense que la réponse est très complexe, mais en même temps, je pense que c'est grossièrement simpliste de remettre ça simplement sur le dos de la criminalité. C'est beaucoup, beaucoup plus pernicieux que ça.
Et il y a toute la question aussi, Raphaël, de ce que les Américains appellent l'over-policing. C'est trop de police. Puis, tu sais, tantôt, quand on s'est parlé, tu as parlé de Ferguson. Ça, c'est arrivé en 2014. Michael Brown, un jeune homme là, qui avait été tiré par la police. Il n'y avait pas de vidéo et il y avait eu des manifestations. Black Lives Matter est né autour de cet incident-là, là, si je ne m'abuse. Moi, j'étais allé à Ferguson pour la presse. Puis, écoute, je suis retourné dans ma chronique, là, 8192 adresses. C'est gros comme Varennes, Ferguson. Mm-hmm. Okay? Et la deuxième source de revenus de la municipalité, ce sont les billets de contravention pour toutes sortes de choses. Donc, des billets de la route, des billets parce que tu as traversé la rue loin d'un passage piéton, etc., etc. Et là, ça, là, c'est 2 600 000 $ à l'époque. Là. C'est l'équivalent de 321 $ par adresse. Dans les quartiers blancs, là, j'avais fait des vérifications, je te garantis, tu n'avais pas autant de tickets et les tickets n'étaient pas une aussi grosse portion du budget municipal. Puis là, après ça, on m'avait expliqué là, à quel point ça devient une spirale. Tu te fais donner un ticket parce que il y a plein de police. Tu traverses en dehors du passage piéton, tu reçois un ticket. Tu le payes pas, t'as pas d'argent, t'es pauvre. La prochaine fois que la police t'intercepte, ça se peut que t'essayes de te sauver. Puis là, ça se peut que ça dégénère. Tu comprends? C'est pas à toi que je vais expliquer ça. Le système de justice aux États-Unis, le système judiciaire, est pas mal plus heavy metal qu'au Canada.
Pat, non seulement t'as pas besoin de me convaincre de ça, on se parle de George Floyd. Pourquoi on se parle pas de Dante Wright, l'Afro-Américain? Oui. Qui a été abattu dans la dernière semaine dans la même région à Minneapolis. C'était quoi cette histoire-là? C'est qu'il avait justement, comme tu le mentionnes, ou comme tu le suggères, là, un antécédent. Oui. Donc la police vient pour l'arrêter et déjà sur le gros nerf, on sort un pistolet, il se fait abattre.
Et l'autre affaire, puis on va finir là-dessus, mais tu sais, on s'étonne que les policiers sortent leur arme rapidement comme ça. Raphaël, je veux pas les défendre, mais dans un pays où 300 millions d'armes en circulation, quand t'arrêtes quelqu'un, il est fort possible, beaucoup plus possible qu'au Canada, qu'au Québec, que la personne soit armée. Ça aussi, ça rend les policiers nerveux et ça aussi, ça mène à des erreurs.
Si tu me laisses 30 secondes juste avant qu'on se laisse, il y a ceci aussi que je vais ajouter. Parce que tu as mentionné le fait qu'il n'y avait pas de vidéo à Ferguson. Je te soumettrai cette question aussi. Qu'est-ce qui se serait produit dans le contexte d'Eric Chauvin, George Floyd, s'il n'y avait pas eu de vidéo? La raison pour laquelle...
Il aurait été acquitté. Écoute, le premier communiqué de presse du service de police de Minneapolis était mensonger là-dessus.
C'est exactement là-dessus que je voulais te laisser. On l'a ressorti. Le premier communiqué publié le 25 mai 2020 parlait d'un incident médical That's it, that's all. Encore une fois, je repose la question, qu'est-ce qui serait arrivé sans vidéo?
Merci Raphaël, à demain.
À demain.